une ou deux réactions.
La même chose, est-ce qu'il s'agit de la même chose que de passer d'un champ disciplinaire à un autre? Ou est-ce qu'il s'agit, c'est-à-dire par exemple du français langue de scolarisation à une séance en langue étrangère, ou est-ce qu'il s'agit de langues utilisées entre eux, qui peuvent être une des langues de migration, etc., par rapport au fait d'entrer dans la classe et d'utiliser le français langue de scolarisation? Merci.
Oui, moi je dirais que c'est comme on veut. C'est-à-dire si on pense que, pour certains élèves en particulier, le passage soit de la langue familiale à la langue scolaire est un grand écart, sans doute plus grand qu'à d'autres époques et pour d'autres types d'élèves, oui, il y a là vraisemblablement un passage à risque, ne serait-ce que dans la délégitimation que cela peut constituer pour l'élève de son univers familial, de son univers d'appartenance. Donc ça, c'est extensif et je crois que ça dépend... Enfin, l'idée... simplement, c'est de dire qu'il peut y avoir plusieurs langues. Voilà. Ça peut être le passage du français à l'anglais ou à l'allemand ou au portugais si on est en cours de français, d'allemand ou de portugais. Mais ça peut être tout simplement aussi le passage de la langue ordinaire de l'élève à la langue scolarisée. Je crois que les films, de ce point de vue-là, ils sont toujours intéressants. Hein. C'est le film dans lequel... C'est Abdelatif Kechi, je crois, le film dans lequel on voit les... Cette enseignante qui monte cette pièce de Marivaux, hein, avec des élèves, on voit bien comment pour certains élèves le grand écart est trop important. Et pour toutes sortes de raisons, ils n'y arrivent pas. Hein. Donc il y a quelque chose dans la langue scolaire qui fait d'elle une langue étrangère, hein, pour beaucoup d'élèves. Donc on peut imaginer que les passages ne sont pas simplement des passages cognitifs pour les élèves. C'est pas simplement le fait de faire une autre gymnastique intellectuelle. C'est le fait d'arriver à admettre qu'il y a une langue dans laquelle on est aussi soi, mais pour qui c'est pas évident dès le début. Je dis des choses qui sont banales, hein, mais il me semble que la méconnaissance souvent des univers de référence des élèves fait que les enseignants n'imaginent pas qu'il y a des risques, il y a des risques au fond identitaires des deux côtés, hein, à la fois pour les jeunes à devenir des élèves et à la fois pour les enseignants à admettre des jeunes qui ne sont pas déjà des élèves. Ce qui me fascine dans notre univers scolaire, c'est que les dénonciations que les enseignants peuvent faire des élèves qui ne se comportent pas comme des élèves sont exactement les mêmes que celles des jeunes qui pensent que les enseignants ne se comportent pas comme des enseignants. Il y a là une réciprocité des points de vue, mais du coup une méconnaissance du point de vue de l'autre qui me paraît assez sidérante. Je repense à Entre les murs, hein, parce que non, quand on a des films c'est mieux, mais le nom de l'élève qui devient un peu violent à un moment donné ne me revient plus, mais lorsque l'enseignant veut le faire travailler sur la biographie, il veut le faire travailler sur la biographie comme genre littéraire. Certains élèves, dont celui-ci, voient dans la biographie une sorte d'enquête policière dans laquelle on va vouloir connaître des éléments de sa vie, de sa vie intime, de sa vie dans la cité. Il y a là une ambiguïté absolument, absolument fantastique. Hein, et là où l'enseignant pourrait imaginer qu'on va faire son autobiographie, voilà, de la même manière que Montaigne ou je ne sais qui fait la sienne, c'est-à-dire qu'avec une part de présentation de soi, de mise en scène et autres, n'est absolument pas, fait suppose un basculement d'une manière de parler de soi dans une autre qui est une langue, hein, qui est le résultat d'un exercice scolaire, comme nous formant à des genres littéraires frayés. Qui sont pas du tout, qui n'ont qu'une ressemblance assez lointaine avec ce que peut être la biographie qu'un policier va vous demander lorsqu'il est du côté du clavier de l'ordinateur et vous de l'autre.
Dans un autre passage, quand on aura la prof d'anglais dans l'autoconfrontation, elle dit à Luc et avec elle, on passe de France en Angleterre, et dans ce passage-là, le passage du prof de langue, qui est un passage à risque encore un peu plus spécifique, de ce que ça va demander à la fois de changer de posture linguistique de référence, mais aussi de ce qu'on va demander de spécifique dans le cours de langue, qui est demandé là et qui n'est pas forcément demandé par les autres enseignants.
Tu me donnes le micro? Non. Oui, Patrick, simplement un dialogue très court par rapport à Nadia, hein, que tu présentes, la prof de maths. J'ai plus la même livraison, analyse que toi, mais ça pose toute la question également de l'usage des vidéos en formation, parce que quand on montre cette vidéo, que je ne montre plus depuis des années, ça choque, ça provoque, ça émeut, ça perturbe, etc. Donc ça pose toute la question de la déontologie par rapport à ce type de matériaux qu'on avait eu du mal à classer. En tout cas, j'avais fait allusion ce matin sans nommer, en tout cas sans positionner cette enseignante-là. Et en fait, par contre, si tu regardes ça de façon ponctuelle, comme ça, de façon un peu statique, ça provoque et ça apporte pas beaucoup, sauf à considérer que tu vas réinsérer cela dans un développement. Alors si je reprends ce raisonnement-là, c'est simplement qu'en ayant travaillé 3 ou 4 ans avec cette enseignante-là, on sait que elle a été chahutée comme beaucoup. On est au mois de janvier. Elle a fait tout pour trouver des solutions les plus radicales après avoir été chahutée et avoir envisagé quitter le métier. Que la seule solution manifeste pour elle, c'était le passage à l'écrit comme pour mettre les élèves à la copie, hein, à la recopie d'un texte, pour pouvoir ensuite, tel un panoptique, contrôler ses élèves. Donc on avait été très impressionnés avec toi de ces moments-là. Mais ses attitudes complètement caricaturales s'expliquent par rapport à sa position de survie et sa peur d'être chahutée. C'est-à-dire que si on découpe ou si on coupe toute la partie historique de son expérience depuis le début de l'année, on voit quelqu'un qui n'est pas faite pour le métier, alors même qu'elle n'est plus ce qu'elle est, elle est plus maintenant ce que tu montres. Et ça montre également toute la durée de péremption nécessaire de ces vidéos par rapport à une personne. Mais pour moi, maintenant, dans Néopass, je peux la classer. C'est-à-dire qu'elle n'est plus à l'activité des attentes interminables. Elle est juste après, dans une réaction excessive, mais liée à sa personne. Elle compose avec elle-même. Mais elle est bien au démarrage de l'activité 3, où on va instrumentaliser l'écrit à des fins de contrôle en classe. Donc je peux la classer.
Monsieur Guillaume Serre, de l'Université de Clermont-Ferrand.
Il y a une université à Clermont-Ferrand ?
On a deux. On en a une de trop. Je profite de la situation parce que ça met en écho ce qu'a présenté Luc et ce que tu viens de présenter. Je trouve intéressant d'avoir les deux présentations à la suite. Et du coup, ça me pose une question que j'ai jamais eu l'opportunité de me poser et de te poser directement. Luc vient de nous dire que tout de suite il est capable de classer Nadia dans la frise chronologique de Néopass. On voit quelle interprétation il fait de la vidéo tout de suite, en renvoyant à l'histoire de Nadia, l'histoire d'un individu, de son passé et de la façon dont on peut interpréter cela. Et on voit quels sont les éléments que Luc utilise pour la situer dans la frise. Ma question, du coup, parce que dans ta présentation, il n'y a pas de frise, il n'y a pas de hiérarchie. Donc j'aimerais que tu nous dises un petit peu comment est-ce que tu te repères dans cette frise de Néopass. Est-ce que tu, avec le regard sociologique que tu dis être complémentaire du regard de l'ergonome, j'aimerais savoir comment est-ce que tu du coup interprètes la logique des vidéos depuis Romain jusqu'à Cécile, par exemple.
Ouais, justement, il me semble que les questions que vous posez tous les deux sont des questions qui sont posées à Néopass et à l'utilisation qu'on peut en faire. Je crois qu'on peut lire au moins de deux points de vue l'épisode de Nadia. On peut le lire dans une continuité chronologique, pour autant qu'on la connaisse. Hein, et en effet, il y a de l'évolution. Mais néanmoins, ce qu'elle nous montre est typique. Moi, ce que je vous montrais là n'était pas tant lié à Nadia que comme une des modalités que l'on pouvait trouver, et pas simplement elle, mais d'autres, que je dirais en termes sociologiques, et si on prend ça en termes de la sociologie des logiques d'action, hein, qu'on peut trouver chez Boltanski et Derouet pour l'éducation, qui est dans le monde à principe logique multiple qui est devenu celui de l'école, la tentative de tout faire tenir dans une seule logique. Je crois que ça, c'est un cas qui est vraiment typique et qui dépasse très largement Nadia, parce que on n'invente pas grand-chose. Enfin, on invente dans la manière d'agencer, mais cette logique, elle existe. C'est la tentative, je dirais presque la tentation, de faire tenir à un moment donné toutes les logiques dans une. Ici, une forme de contrainte. Dans la plupart des cas, les gens négocient entre plusieurs logiques. Alors, je crois que ça a une efficacité très très grande, c'est que ça fait tenir les situations. Mais les conséquences sont des conséquences, je crois, d'usure considérable, parce que les situations sont aujourd'hui tellement riches et complexes qu'on ne peut plus les faire tenir dans une seule logique, comme ça a été le cas où la logique civique, hein, pour reprendre les termes de Rouet et Boltanski, était le ciment quasi essentiel et non questionnable du système éducatif. Hein, au fond, tout ce qui s'est passé, c'est lorsque différents types de logiques qui sommeillaient dans l'école et qui étaient tenues sous le boisseau par les autres parce que l'école était vécue comme un instrument d'intégration citoyenne, voire d'intégration sociale, lorsque ces certitudes se sont effondrées, d'autres logiques, logique du marché, logique du bonheur à l'école, logique de la performance, logique de tout ce qu'on peut imaginer, se sont instillées et aujourd'hui sont là à peu près à armes égales dans le système éducatif, et les enseignants ont à les attacher entre elles à un moment donné. Dans la plupart des cas, il me semble que là, la sociologie fournit quand même des instruments qui sont pas tout à fait nuls pour ça. Dans la plupart des cas, il négocie entre ces différentes logiques. Le cas Nadia ici, exacerbé et pris à un moment donné en effet de sa trajectoire, a surtout, de mon point de vue, comme intérêt de mettre en évidence à quel prix on régule les passages à risque en travaillant dans une seule logique. Avec éventuellement les effets systémiques dont Nadia elle-même s'est rendu compte en se disant qu'on ne peut pas tous travailler comme ça et tout le temps. Donc voilà, moi la lecture que j'en fais, ce n'est pas une lecture biographique, parce qu'on pourrait la faire aussi, c'est une lecture qui consiste à dire il y a des logiques d'action, et ici elle est montrée comme un peu comme un parangon, hein, qui sature ce type de logique qui consiste à être dans une particulière. Mais de la même manière que d'autres enseignants, on va le voir... avec Séverine, sans doute dans quelques temps, sont dans une logique, au contraire, totalement horizontale, hein, dans laquelle les savoirs disparaissent à peu près, et où on est dans une forme de gestion de l'ordre pour l'ordre, qui est aussi une logique unique. Hein, mais voilà, c'est au fond, on a des exemples un peu écartés dans lesquels les enseignants se tiennent dans une logique avec la grande difficulté à articuler ces fameux deux axes, hein, horizontaux et verticaux, qui sont le modèle explicatif que j'ai essayé de proposer. Alors, je ne sais pas si je vous réponds, mais on aura l'occasion de s'engueuler plus tard. Parce qu'il y a beaucoup de passages à risque dans cette formation.
Ria a dit, c'est normal, c'est de la sociologie qui plombe un peu.
Oui, c'est normal, il a jamais bien compris. Donc c'est...